E-Radio, l'invité de la rédaction, Romain Lostis.
Leïla Chaïbi, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview enregistrée sur E-Radio ici au Parlement européen à Strasbourg. Vous êtes députée européenne française, membre du groupe de la gauche au Parlement européen et notamment au sein de la Commission de l'Emploi et des Affaires Sociales. Nous avions déjà eu l'occasion d'analyser cet enjeu crucial des droits des travailleurs des plateformes et de l'ubérisation du travail l'année dernière, que cette directive européenne était en négociation ici au Parlement européen puis au sein du Conseil de l'UE. En décembre dernier, un accord avait été trouvé entre les différents décideurs de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu en quoi consistait cet accord sur les travailleurs des plateformes ?
Alors, en trilogue, lors d'une réunion de trilogue donc entre le Conseil et le Parlement avec la Commission européenne comme arbitre, dans la nuit du 12 au 13 décembre, on avait trouvé un accord sur la directive pour les droits des travailleurs des plateformes. Alors, c'est un accord qui était équilibré, qui était très loin de la position initiale du Parlement européen. Moi, si j'avais dû l'écrire, je ne l'aurais pas écrit comme ça. Mais c'est un accord qui était bon, qui permettait tout de même l'amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes. Cet accord, il allait permettre les personnes qui sont à tort considérées comme des travailleurs indépendants, alors qu'en fait, elles sont subordonnées. On pense par exemple aux livreurs de repas de chez Deliveroo, les livreurs de repas à domicile. Ils ont signé pour être indépendants, mais dans les faits, en fait, ils choisissent pas leurs tarifs, ils choisissent pas comment ils travaillent, ils peuvent être sanctionnés, contrôlés, dirigés, qui sont les caractéristiques du lien de subordination. Et donc cet accord, il disait quoi ? Il disait aussi que dès qu'une personne était requalifiée, l'inspection du travail devait regarder les travailleurs de toute la plateforme pour requalifier tous les travailleurs de la plateforme. Il était équilibré. Le Parlement avait fait beaucoup de pas en direction du Conseil. On pensait que du coup, c'était fini et la directive allait pouvoir être adoptée. Mais coup de tonnerre, coup de théâtre, quelques jours après, le Conseil décide de ne pas valider cet accord.
Fin décembre 2023.
Là, on est le 22 décembre. Ouais. On est le 22 décembre et ça, c'était la surprise puisque l'accord au petit matin du 13 décembre s'en félicite la présidente PPE du Parlement européen, le président de la commission Renew, un très libéral roumain, Dragos Pislaru, Sylvie Brunet, qui était l'auteur, une Française élue sur la liste d'Emmanuel Macron, auteur du premier rapport d'initiative sur le sujet. Et pourquoi ça n'a pas été validé ? Parce que la France a décidé de bloquer cet accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé le pouvoir qu'ils avaient en co-repère, donc dans la ministre à la réunion de tous les ambassadeurs de l'Union européenne. Et il faut normalement la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la majorité des États membres, mais qui représente 65% de la population de l'Union européenne. Et donc là-dedans, la France a cherché des alliés chez les pays les plus à droite, à l'extrême droite de l'Union européenne. Et elle a réussi à bloquer les choses et à dire à la présidence espagnole, vous ne passez pas au vote, parce que si vous passez au vote, on va plomber les choses. Quand même, il y a la Commission européenne qui est d'accord, tout le Parlement européen qui est d'accord, 23 États membres qui sont d'accord sur 27. C'est dommage que le truc ne soit pas passé. Donc, ils ont retenté un peu la réunion de la dernière chance, alors que tout paraissait plié, en se disant, tiens, le 11 mars, il y a une réunion, mais cette fois-ci, ça rassemble les ministres et pas leurs ambassadeurs. Entre-temps, on va faire en sorte d'essayer de convaincre, parce qu'il suffit qu'un seul pays bouge, change de position sur les quatre là, qui étaient contre, pour que la directive soit adoptée.
Il fallait 24 États européens
qui représentent 65% de la population européenne.
C'est ce qu'on appelle donc la majorité qualifiée.
C'est ça.
Pour obtenir la validation de l'accord final sur cette directive
européenne.
C'est ça.
Et donc c'est ce qui s'est passé, parce que la France n'a pas bougé. Jusqu'au dernier moment, la France a refusé de valider cet accord, parce que depuis le début dans cette histoire, Emmanuel Macron soutient Uber contre l'intérêt des travailleurs. Mais l'Allemagne n'a pas bougé, mais elle, pour des raisons techniques, l'intervenant de l'Allemagne a dit « Je soutiens le fond de l'accord, mais on a un partenaire dans la coalition qui ne soutient pas. » Donc on savait qu'ils allaient s'abstenir depuis le début dans cette histoire, depuis 3 ans dans cette histoire. Et par ailleurs, l'Estonie a bougé. Enfin, l'Estonie a validé l'accord et la Grèce a validé l'accord.
Que contient le texte final, finalement ? Est-ce que ça correspond un peu aux espoirs que vous aviez pour le statut des travailleurs des plateformes en Europe ?
Alors, il faut dire qu'on est très loin de l'ambition initiale du Parlement européen, avouons-le, en ce qui concerne la présomption de salariat. Il y a un principe de présomption de salariat, c'est-à-dire que les travailleurs des plateformes, qui aujourd'hui sont indépendants et doivent aller voir le juge pour contester leur statut, et c'est à eux d'apporter les preuves qu'ils sont bien subordonnés, qu'ils sont bien, et donc pour être requalifiés, avec cette directive, il y a le fait qu'ils soient présumés salariés. Ils sont désormais présumés salariés. Maintenant, sur la mise en œuvre de la présomption de salariat, c'est vrai qu'on est très loin de l'ambition initiale du Parlement. Moi, j'aurais aimé, si j'avais dû l'écrire, cet accord, faire quelque chose de plus contraignant, une présomption de salariat plus large que ce qu'elle est. Mais on a fait de nombreux pas en direction du Conseil. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'on est toujours sur quelque chose qui améliore les conditions de travail de millions de travailleurs.
Le texte prévoit aussi, je crois, le renversement de
c'est
la charge
ça,
de la
preuve. C'est l'élément principal. On avait en face de nous des lobbies avec leurs relais politiques, notamment donc malheureusement Emmanuel Macron, qui auraient voulu un accord qui serve Uber et qui empêche les requalifications. Là, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un renversement de la charge de la preuve. Donc désormais, une fois la directive adoptée, quand un travailleur va voir le juge pour contester son statut, pour dire que je ne comprends pas, j'avais signé pour être indépendant, mais en fait je ne suis pas indépendant, je vais être salarié, un livreur de repas à domicile, un chauffeur VTC, mais plein d'autres professions, ça va bien au-delà de ces professions-là, et ben, ce ne sera pas à lui d'amener les preuves qu'il est bien subordonné, ce sera à la plateforme d'amener les preuves qu'il est bien indépendant. Ouais.
Leïla Chaïbi, vous vous êtes depuis longtemps engagée contre ce phénomène d'ubérisation du travail, c'est-à-dire cette tendance à engager donc, de faux indépendants pour ensuite pouvoir mieux les contrôler sans avoir à respecter correctement le droit du travail et donc les droits sociaux de ces personnes. Maintenant que ces dérives par les plateformes sont un peu freinées ou vont être freinées grâce à ce texte européen, en a-t-on fini avec l'ubérisation du travail ?
Alors d'abord, on n'a pas fini parce que là, on a une directive qui va être adoptée, qui doit être transposée. Il y a une bataille qui est devant nous, qui va concerner la transposition. Moi, je me suis aperçu de quelque chose ici au Parlement européen, c'est que tout est une histoire de rapport de force. Et il y aura un rapport de force, y compris dans la transposition. On va faire en sorte, moi, pour le coup, pour ce qui concerne mon pays, la France, que quand ça va être transposé, donc traduit en loi nationale, ce soit le plus contraignant possible. C'est un coup d'arrêt... contre l'impunité des plateformes. Je pense que le message qu'il leur a envoyé, c'est la fête est finie, maintenant on va arrêter de piétiner les droits sociaux, on va arrêter de se croire au-dessus des lois, maintenant vous êtes dans un endroit où il y a un modèle social qui existe et si vous voulez avoir des gens sous votre subordination, vous êtes obligé d'appliquer le droit du travail. Mais il faut faire attention parce qu'on sait que les plateformes, elles sont capables d'utiliser beaucoup, beaucoup d'argent et jusqu'au dernier moment pour essayer de contourner la loi et que l'ubérisation, donc on l'a sortie par cette porte-là, mais elle peut très bien rentrer par une autre. Je crois que ce qui est en train de se généraliser et ce qu'on va affronter, c'est le fait que quand un employeur n'assume pas ses responsabilités d'employeur, à partir du moment où on décide d'avoir quelqu'un qu'on emploie, eh bien, on doit assumer d'avoir des obligations de respecter le droit du travail et de respecter, de payer la protection sociale. L'ubérisation, on lui marque un coup d'arrêt par cette porte-là, mais je crois qu'il faut s'attaquer à d'autres problèmes qui sont par exemple notamment la question de la sous-traitance à outrance, qui est une forme d'ubérisation selon moi.
Vous parliez de la transposition de ce texte après dans les systèmes juridiques nationaux. Comment ça se passe, par exemple ? Quel rôle peut jouer une députée européenne pour s'assurer que le texte national corresponde bien au texte européen ?
Mon travail de députée européenne depuis le début dans cette histoire, je ne le fais pas uniquement au Parlement européen, mais je le fais déjà en rentrant, en ramenant dans le Parlement la mobilisation des principaux concernés, en faisant un peu du contre-lobbying, en quelque sorte, et en lien avec les députés nationaux. Et là, pour le coup, notre partenariat, notre collaboration avec les députés nationaux de nos pays va être primordial, en fait, dans la transposition. Et donc, on va voir, parce que tout ça, c'est devant nous. J'avoue que ça va être moi, ma première expérience de travailler à la transposition d'une directive, parce que c'est pas tous les jours qu'on obtient une directive, une bonne directive. J'en suis très heureuse. Mais en tout cas, quelque chose que je sais, c'est que tout est histoire de rapport de force et qu'il va falloir se battre jusqu'au dernier moment, jusqu'à la transposition de la dernière virgule, pour faire en sorte que cette directive soit la plus contraignante possible vis-à-vis des plateformes et permette à un maximum de travailleurs qui actuellement sont des faux indépendants, ont rien d'indépendant, choisissent pas leurs tarifs, sont soumis à une hiérarchie, et bien que cela ait les mêmes droits que n'importe quel travailleur salarié.
Donc au final, c'est une victoire, mais la bataille n'est pas finie.
La bataille n'est pas finie, mais c'est quand même une sacrée victoire, et en tout cas, la bataille est quasiment finie au niveau du Parlement européen, au niveau de Bruxelles. Ça a été 5 années de bataille, donc très long, mais je suis contente qu'on finisse par un happy end, de surcroît à 3 mois des élections européennes. Je pense que c'est une excellente nouvelle.
Merci Leïla Chaïbi pour vos explications sur l'aboutissement au niveau des institutions de l'Union européenne sur cette directive européenne sur le statut des travailleurs des plateformes en Europe. Merci beaucoup.
Eh bien, merci.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.